Bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue. Nous sommes très heureux d'accueillir ce soir Frédéric Lagrange. Frédéric Lagrange est agrégé d'arabe. Il est professeur de littérature arabe à l'université Paris 4 Sorbonne, où il est également directeur de l'UFR des études arabes et hébraïques. Il a étudié la littérature et la langue arabe sous plusieurs angles. Il s'est intéressé il maîtrise la langue arabe classique, mais aussi la langue arabe dialectale orientale. Donc, il s'est intéressé aussi à la dialectologie. Et il a aussi beaucoup étudié et écrit sur l'histoire de la musique et de la chanson arabe, ce qui est un champ vraiment original pour nous. Enfin, il s'est intéressé aussi aux études de genre. Il a écrit de nombreux articles que je vous invite à consulter sur tous ces sujets, ainsi que plusieurs ouvrages. Un livre intitulé « Musique d'Égypte » à Actes Sud, un autre en arabe sur le chanteur et musicien égyptien Youssouf El-Manielawi à Darjassaki à Beyrouth, et enfin aux éditions Téraèdre, qui sont les éditions pilotées par l'ISM, Islam d'interdit, Islam de jouissance. Et alors, il a par ailleurs également traduit des textes des romanciers arabes anciens, mais aussi de l'arabe classique. Et enfin, il a publié toute une série de CD, une douzaine ou une quinzaine, je ne sais pas. Donc, ça fait une palette assez large pour nous. Et c'est important pour nous, nous le remercions de venir nous parler de ce qui est à la fois le génie de la culture arabe. Quand on parle du monde arabe, c'est souvent pour parler de problèmes, de parler de là où ça coince, mais il ne faut pas oublier aussi que c'est un lieu où on produit de la beauté et du plaisir. Merci.
Merci beaucoup. Ce n'est, dans les multiples casquettes que tu m'as prêtées, ce n'est pas celle du linguiste ou dialectologue, ce n'est pas celle que je vais vêtir aujourd'hui, ni celle du musicologue, puisque nous allons parler de beaucoup de polissonnerie aujourd'hui. Nous allons en fait parler de fesses, d'ailleurs plus volontiers de fesses masculines que féminines, mais c'est le sujet qui me l'imposera. De toute façon, c'est dans l'air du temps, puisqu'on pose des questions à ce sujet, même au président. Donc, nous avons toute justification à en parler aujourd'hui. Voilà. La recherche que j'ai entreprise dans le domaine des gender studies est née d'une insatisfaction ressentie dans le discours produit en France et traitant de la sexualité dans l'ère culturelle arabo-musulmane. D'abord parce que c'est un discours qui était partiellement confisqué par la psychanalyse et parce qu'il demeurait à l'écart de l'application des travaux de Foucault en France ou aux États-Unis de John Gagnon sur les scripts, des travaux qui caractérisent les tendances récentes du croisement entre ce que les Américains ont tendance ces temps-ci à appeler les « Islamicate studies », en distinguant Islamic de Islamic pour ce qui se rapporte aux cultures de l'islam et non à la seule religion, ceci d'une part, et puis les études sur la sexualité dans l'ère anglo-saxonne. Et il se trouve qu'il me semblait qu'en France, le discours tenu se singularisait par un essentialisme, souvent involontaire, mais qui finalement devenait inadmissible alors que nous progressions dans le XXIe siècle. L'intérêt pour ce domaine naît de constatations qui sont finalement très banales et qui ne peuvent échapper à personne, ou du moins à aucun lecteur de littérature arabe, qu'il s'agisse de la littérature médiévale ou de la littérature moderne. Mais plus particulièrement en ce qui concerne la littérature médiévale, c'est la mention permanente en poésie et dans la prose prémoderne de multiples transgressions sexuelles. Transgression du moins au regard de la norme divine et d'une façon peut-être plus discutable au regard de la norme sociale. Et ces transgressions semblaient jouir d'une certaine légitimité sociale en dépit de leur statut juridique, dans la mesure où l'on peut supposer une relation de ce qu'on pourrait appeler un reflet vraisemblable entre, d'une part, la littérature, savante ou populaire, et, d'autre part, une réalité qui demeure nécessairement insaisissable. En tout cas, ces transgressions jouissent d'une indiscutable légitimité littéraire, si l'on considère plus prudemment que les transgressions évoquées par l'écrit correspondent avant tout à une pratique littéraire ritualisée, particulièrement dans le cadre d'une notion qui porte en arabe le nom de moujoun, que nous traduirons à défaut par libertinage, à défaut d'un terme qui soit moins connoté. Que ce libertinage, que ce moujoun soit assumé par l'auteur, généralement c'est le cas de la poésie, ou qu'il soit rapporté, c'est-à-dire que l'on raconte des anecdotes sur un libertin, dans un schéma transitif qu'on pourrait appeler de la littérature prétéritionnelle. Prétéritionnelle par référence à une figure du discours qui est la prétérition. La prétérition consiste à dire, par exemple, je ne vous dirai pas que ce que vous dites est stupide, mais... En fait, à partir du moment où vous dites « je ne le dirai pas », vous le dites. C'est cette figure qu'on appelle la prétérition. Et la littérature arabe médiévale fait souvent montre de prétérition. A contrario, la littérature moderne de langue arabe est susceptible d'exposer et de montrer la transgression sexuelle. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'elle l'associe guère au plaisir. Qu'il s'agisse du plaisir premier dérivé de l'acte ou du plaisir secondaire naissant de son énonciation, puis de sa consommation sous forme de produit culturel. Sous forme de produit culturel, c'est-à-dire, en l'occurrence, l'écrit. Les modes de consommation des productions culturelles influent probablement de façon considérable dans ce changement de perspective. L'évocation du plaisir des corps ne peut être la même dans le cadre médiéval qui est d'un supposé oral transmis d'après une autorité ou un écrit oralisé sous couvert d'authenticité comme c'est le cas du majlis, de la séance médiévale. Alors que dans le cadre moderne, nous parlons d'un écrit consommé silencieusement et personnellement. On ne peut pas comparer la consommation de l'écrit à la période médiévale, qu'il soit, et à la période moderne, que cet écrit soit enseigné ou découvert suite à une quête personnelle, permis ou interdit, lu par un homme ou par une femme, lu par un adolescent ou par un adulte, etc. De même, la représentation graphique du plaisir ou son évocation sur un support audiovisuel diffère nécessairement selon la réception qui est supposée. On ne regardera pas une œuvre de la même manière selon qu'elle est destinée à une salle de théâtre ou de cinéma, une salle mixte ou une salle réservée par l'usage ou par la loi aux seuls hommes ou aux seules femmes, ou devant un écran de télévision, etc. C'est-à-dire, de toute façon, la question de la réception est fondamentale et explique partiellement ce changement de position par rapport au plaisir entre l'écrit médiéval et l'écrit moderne. Il demeure que, quand la littérature arabe moderne mentionne la transgression, ce qui est de plus en plus courant au début du XXIe siècle, elle le fait sur un mode qui est profondément différent de ce que l'on trouve dans l'adab, dans la production écrite littéraire savante pré-moderne. La transgression, et particulièrement transgression homosexuelle, est généralement dénoncée comme le stigmate d'une corruption morale, comme signe de sous-développement, comme métaphore d'un problème politique, comme un problème demandant régulation. Ça, c'est une possibilité. Ou bien alors, plus rarement, on niera son statut de transgression et on appellera à une réforme des mentalités. ce serait dans ce cas-là plus courant dans le versant hétérosexuel de la transgression. Ou alors enfin, la transgression va être exhibée comme modèle de rébellion, d'audace, voire comme gage de modernité du projet littéraire. J'en parle, donc je suis moderne. Et regardez de plus près les modes d'énonciation de la transgression sexuelle en littérature classique et prémoderne sont essentiellement le rire et l'insulte. Je parle là de la littérature classique. Le rire et l'insulte n'étant d'ailleurs pas mutuellement exclusifs. Par contraste, les modes, et je dis mode au sens de la modalité, au sens quasi grammatical, les modes les plus courants de représentation de la transgression sexuelle en littérature moderne sont soit la dénonciation d'un dérèglement social quelconque, soit la revendication d'un droit. La sexualité transgressive dans le corpus classique est généralement chose plaisante, amusante, scandale amusant. Dans le corpus moderne, elle est principalement problème de société appelant à être réglé. Soit il y a des règlements, soit il y a absence de liberté et donc liberté à conquérir. Mais en tout état de cause, il y a problème. Outre les conditions de réception que je viens d'évoquer, cette différence est bien entendu aussi liée à la nature mouvante de ce que recouvre le terme adab, littérature, savante, à l'époque classique, concept universel de littérature, actuellement. Il est naturel que dans une littérature de fiction romanesque, actuellement, basée sur la mimésis, qui vise à l'analyse de la société ou bien à celle de l'individu, à l'examen des ressorts de ses actes, de ses comportements. Tout ce qui modèle cette société ou fait cet individu, et donc le rapport au corps et au plaisir, est plus susceptible d'être complexe, problématique, illustratif, démonstratif, plutôt que, en littérature classique, littérature d'anecdotes, où le travail de l'auteur, celui que l'on peut appeler le mot sannef, ou le mot allef, celui qui arrange au sens propre du terme. Pourquoi est-ce qu'en arabe on dit mot allef pour auteur? Parce que l'on prend une ancienne conception où mot allef est celui qui arrange, c'est l'arrangeur littéralement, c'est celui qui place ensemble et donne sens à des éléments disparates qui l'ordonnent de manière à orienter une réception. Le mot allef au sens propre du terme est un homme dont la fonction consiste essentiellement dans la sélection, l'arrangement, la présentation, la réécriture, et donc éventuellement le nouveau sens qui va être donné à des éléments piochés, supposés être communs à une culture, mais stock inépuisable d'éléments, d'anecdotes, de récits rapportés, dans lesquels chacun pourrait théoriquement piocher matière à sa démonstration. Cette différence d'attitude littéraire devant le plaisir et singulièrement devant le plaisir interdit révèle déjà au premier chef une profonde mutation des normes du disciple qui semble se produire entre le XVIIIe et le XXe siècle, d'une part. D'autre part, un déplacement des limites du normal au regard du transgressif. La transgression n'est pas nécessairement une transgression de la normalité. En fait, lorsque l'on parle de transgression, une question qui se pose est transgression de quoi ? Transgression de la loi ou transgression des coutumes ? Transgression de la norme ou transgression de la volonté divine ? Ce n'est pas nécessairement la même chose. Si l'on prend la norme que fixe la loi religieuse musulmane comme référence de l'immuable, ce qui en soi est une convention de toute façon simplificatrice. Je l'admets volontiers. On observe que normes sociales et normes littéraires ont historiquement considérablement évolué dans plusieurs domaines. Ne serait-ce que, par exemple, la rencontre des sexes dans l'espace public. Voilà ce qui est maintenant un acquis depuis un siècle et demi, sociale qui ne l'aurait pas été dans, dans un contexte médiéval. Là, on voit que, par exemple, là, les sociétés contemporaines prennent appui sur le supposé immuable l'islam avec un petit i, la religion, de manière à théoriser la légitimité de nouvelles pratiques sociales. La construction de la relation conjugale comme lieu de résolution de la passion amoureuse. Voilà encore une évolution majeure. Dans la littérature classique, la passion amoureuse peut éventuellement, mais c'est quasiment de l'ordre du hasard, tomber sur l'épouse. Mais on ne construit pas le lien conjugal comme étant le lieu privilégié de résolution de la passion amoureuse. La passion amoureuse, généralement, se fait ailleurs. Il se peut que par hasard, elle tombe, elle débouche sur le conjugal. Mais ce n'est pas son lieu privilégié. Alors que depuis le 19e siècle, la littérature arabe présente justement le lien conjugal comme le lieu d'expression de l'amour. L'homme est supposé être amoureux de sa femme. Les films se terminent par un happy end conjugal. Voilà une modification fondamentale des représentations de la passion. Et puis encore, l'homoérotisme, là encore, la légitimité ou la normalité du désir homoérotique dans un contexte médiéval ne peut être comparé à l'interdit où un interdit social rencontre un interdit religieux dans une société contemporaine. Voilà trois exemples qui seraient assez éloquents d'évolution forte des normes sociales. Cette différence peut parfois laisser supposer à tort un avant libéral épris de plaisir et un maintenant répressif où les corps auraient perdu leur liberté. Et c'est là une perspective que je tiens à pourfendre. Je me rappelle cet amusant dessin de Ralph Koenig, dessinateur allemand, dans lequel on voit un avant-après, le avant, c'est une voluptueuse danseuse du ventre et évoluant avec des voiles tournoyant sur elle-même. Le après est une femme en burqa. Comme s'il y avait un avant d'érotisme mille et une nuits et un après d'interdit du plaisir. Sans voir qu'il y a toujours eu aussi bien cet avant que cet après. Fondamentalement, il n'y a pas là lieu de distinguer un avant du plaisir et un aujourd'hui de l'interdit, un maintenant répressif. En fait, la multiplicité des normes, parfois contradictoires, qui s'offrent à l'individu, les évolutions successives de ces normes locales, importées, ont fait bouger le permis, ont fait bouger le toléré, ont fait bouger l'interdit. La matière sur laquelle se base la recherche pour poser ces hypothèses étant en premier lieu le discours, l'analyse des systèmes discursifs ne peut déboucher que sur, certes, une histoire des représentations. Et lorsque l'on parle des mondes médiévaux, on est condamné à étudier des représentations de l'élite produisant l'écrit que l'on peut tenter de reconstruire, mais la réalité des pratiques, là, nous sommes obligés de l'avouer, demeure extrêmement malaisée à cerner. Les premiers travaux que j'avais faits s'étaient focalisés sur la place de l'homoérotisme en littérature arabe classique et moderne. Un second prenait appui sur un célèbre ouvrage de satire d'Abu Hayyan al-Tawhidi qui s'appelait « La satire des deux vizirs » pour réinterroger et nuancer des simplifications courantes qui caractérisent le discours usuel des études sur le genre et en se demandant quelle était la place finalement de l'insulte dans la constitution d'un personnage qui, a priori, pour les gender studies, n'existe pas et qui est l'homosexuel, qui est supposé être une invention moderne. Et je me demandais dans quelle mesure l'injure, de façon adventice ne finissait pas finalement par le construire. David Halperin, dans le premier chapitre de son ouvrage « How to do the history of homosexuality »,« Comment faire l'histoire de l'homosexualité », mettait le doigt sur une simplification, voire un contresens dont avait été victime la volonté de savoir de Foucault, le premier tome de l'histoire de la sexualité. Dans un passage devenu célèbre, Foucault distinguait entre le sodomite prémoderne et l'homosexuel fondé, fabriqué discursivement au XIXe siècle. Il disait, Foucault, « La sodomie, celle des anciens droits civils ou canoniques, était un type d'acte interdit. Leur auteur n'en était que le sujet juridique. L'homosexuel du XIXe siècle est devenu un personnage, un passé, une histoire et une enfance, un caractère, une forme de vie. » Ainsi que, fin de citation de Foucault, ainsi que le soulignait Halperin, cette distinction qui relève chez Foucault d'une analyse des discours a débouché d'une part, ce qui est utile, sur une nécessaire précaution méthodologique devenue classique depuis les années 80, consistant à distinguer nettement entre acte sexuel d'une part et identité sexuelle d'autre part, ce qui est la base, le béaba des études sur le genre moderne, mais, dit Halperin, cette distinction a aussi mené dans la recherche à un abus et qui est de croire que l'identité sexuelle serait uniquement une création de la modernité et qu'avant le 19e, ainsi que dans les cultures extra-européennes, il ne serait pas possible de relever des types humains définis par une conduite sexuelle particulière et dont l'écriture tenterait de cerner la subjectivité. Alors, évidemment, de la part d'un auteur comme David Halperin, il ne s'agit absolument pas de revenir à un essentialisme ahistorique, de retourner à John Boswell, à la prétendue permanence de figures comme celle de l'homosexuel en allant d'Alexandre le Grand à des personnages contemporains, mais il s'agissait de rectifier une lecture historique trop extrême et qui présumait une rupture épistémologique totale entre l'avant-19e siècle et l'Occident moderne. On peut cependant noter que Halperin, lui aussi, dans ses écrits, poursuit l'exaspérante habitude de traiter du monde occidental dans lequel il inclut l'antiquité grecque et latine, en supposant un continuum culturel entre antiquité grecque, latine, Moyen-Âge européen et Europe occidentale et États-Unis. Finalement, la France reste fille d'Athènes, hein, quelque part. On est toujours dans ce mythe et on le dépasse pas, même dans une recherche tout à fait moderne. Et en excluant le monde musulman, peut-être parce qu'il est tout simplement insuffisamment connu et étudié, une exclusion presque inconsciente, alors qui est sans doute une précaution méthodologique du savant qui ne veut pas se risquer en dehors de son lieu un peu trop bien balisé, mais alors que des ressemblances fortes ou des similitudes de représentation entre cette antiquité méditerranéenne et l'islam classique sont finalement plus frappantes que les points communs permettant de relier Europe moderne et Athènes ou Rome. Il y a plus de ressemblances Athènes-Bagdad que Athènes-Paris, finalement. Enfin, encore une fois, tout ceci est discutable. Disons qu'il y a des similitudes. Et en ce sens, on ne sort guère de la représentation que se font les élites européennes d'elles-mêmes depuis la Renaissance en tant qu'héritières de la pensée grecque et de la grandeur romaine. Or, le monde de l'islam, dans les textes classiques, connaît précisément des personnages, des types déterminés par une sexualité, si on veut bien assumer l'anachronisme du terme. Alors certes, ces personnages, on les retrouve où ? En littérature. Et je reviens à la précaution initiale qui était que nous ne savons aucunement la mesure dans laquelle la littérature reflète la réalité des comportements. Mais de même que Halperin montrait que le portrait du kinaïdos grec définit une catégorie de personnes et non simplement d'actes, la littérature arabe classique établit elle aussi des portraits types de transgresseurs, soit des normes sociales, soit des normes religieuses. L'efféminé, le mukhannaf, le louti, amateur de jouvenceau, l'entremetteuse, qui dans la société aide les amants à se retrouver. Et on ne se réfère pas là seulement à des actes, mais à tout un être au monde qui leur est particulier, à une manière de parler, à une manière d'être, à des scripts comportementaux. Les premiers travaux faits aux États-Unis par Everett Rawson dans le domaine médiéval ont mis très tôt en évidence de tels personnages et ont permis de montrer qu'il y avait une approximation trop forte ou du moins un certain nombre de simplifications dans la vulgate des gender studies. Mais une autre assertion m'a semblé également devoir être nuancée. L'idée dominante dans la recherche sur les sexualités dans le domaine méditerranéen antique et le domaine musulman, que la définition de la masculinité par ces multiples cultures se base uniquement sur le rôle joué au cours d'un acte sexuel, alors que la définition occidentale moderne de la normalité masculine se focalise sur le genre du partenaire. L'idée, la vulgate des gender studies est opposer rôle dans l'acte sexuel à genre du partenaire. En quelque sorte, dans le monde moderne, ce qui importe est le genre du partenaire. Dans le monde prémoderne, ce qui importe est le rôle assumé lors du rapport sexuel. Et cette idée qui fait partie de la vulgate des gender studies m'a semblé également devoir être quelque peu nuancée. Alors, l'idée était qu'il y aurait une représentation qui unirait Athènes, Rome, la Bagdad médiévale et de la Bagdad médiévale au Maroc de Barthes, parce que c'est également la perception occidentale du monde arabe. Il y a un passage très intéressant dans Incident de Roland Barthes qui est paru en 87. Barthes est au Maroc en pleine période hippie entre 68 et 69. Il regarde Tanger, Rabat, Marrakech et il note en quelques lignes ce qu'il appelle des incidents. Bon, il y a des images, des répliques, des couleurs, des impressions qui sont individuellement impertinentes mais qui forment dans leur accumulation un tableau impressionniste touchant. Quelque part, la forme de incident de Barthes en 87, c'est l'ancêtre du blog. C'est une structure hachée, des micro-unités narratives, ou alors on pourrait rapprocher ça du khabar oriental, finalement. Mais dans Incident, Barthes assume son drôle de récit d'un homosexuel vieillissant et avec un voyage au Maroc, un pays où manifestement les garçons payants dansent autour de Barthes la précieuse et qui jouit du choc comique entre la langue française et leur discours rusé, madré. Citation, il dit « Visite d'un garçon inconnu envoyé par son copain. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi viens-tu ? » L'autre répond « C'est la nature. Une autre fois, c'est la tendresse. » Barthes, « Je sens que je vais être amoureux de toi. C'est ennuyeux. Comment faire ?» L'autre, « Donne-moi ton adresse. » Bon, Barthes aussi appartient en même temps à une époque révolue dans la succession de Gide, le temps où l'homme mûr, le gaouri en costume de lin blanc, l'homme blanc. En 1968, Barthes a 53 ans, collectionne les adolescents et n'éprouve aucune honte, aucune pudeur, aucun regret de cette sexualité inégalitaire. C'est une époque révolue. Il ne raconte pas les hommes qui l'ont connu, il raconte les garçons. Terme est signifiant. Le discours du XXIe siècle, a priori, prendrait garde de parler d'hommes pour être légitime. On voit là que se sont écoulés 40 ans fondamentaux dans l'histoire des représentations et dans les codes du discours en Occident. Ou alors, si on parle de garçons, on sera accusé aussitôt d'être dans une optique néocoloniale. Ce qui ne traverse pas l'esprit ou traverse l'esprit, mais il s'en fiche, de Barthes lorsqu'il publie en 87. Et puis, il faut également regarder la place de l'étranger dans cette économie du désir. C'est aussi parce qu'il est étranger qu'il peut ainsi agir, de toute façon. Enfin, bref, l'idée commune est que le rôle masculin est le rôle du pénétrateur, le rôle féminin, celui du corps pénétré. Et donc, la Vulgate veut qu'un homme, en conséquence, ne risquerait aucunement de déchoir de sa masculinité tant qu'il assume ce rôle insertif, quand bien même le fait de choisir un partenaire du même sexe est socialement moins valorisant qu'un partenaire du sexe opposé. C'est une hypothèse qui contient une grande part de vérité, mais elle me semble pourtant caricaturale et insatisfaisante pour un ensemble de raisons. D'abord, il ne me semble pas tout à fait exact que les cultures non occidentales, prémodernes, n'aient jamais senti le moindre lien ou la virtualité d'un continuum plaçant sur une même ligne le sodomite passif et l'actif. Il ne me semble faux que ces sociétés n'aient jamais senti, n'aient jamais envisagé que la préférence pour un partenaire de même sexe représentait un risque pour la masculinité. On notera d'abord que l'association entre masculinité et rôle pénétrant n'est pas une donnée des seules sociétés méditerranéennes et arabo-islamiques. L'insulte, que peut-être il faut considérer comme une butte témoin de représentation plus ancienne, révèle que n'importe quel homme est susceptible, pour en abaisser et en humilier un autre, de se représenter discursivement comme le partenaire insertif d'une relation homosexuelle fictive, en insultant, inutile que je vous dise, hein, mais je, t'es apostrophe, trois petits points, la chose est parlante. Cela veut dire qu'on peut se représenter discursivement comme partenaire d'une relation homosexuelle fictive sans aucunement que cette représentation implique pour l'énonciateur une anormalité du fait de sa nature homosexuelle. L'insulté est assimilé à une femme, pénétrée, l'insulteur conserve son statut de mâle dominant. Alors, s'il est clair que c'est la dimension discursive et fictive de l'insulte qui rend possible la représentation de l'énonciateur en partenaire d'une relation homosexuelle, il demeure qu'aucune barrière mentale ne rend l'énoncé inacceptable. Il est impoli, il est vulgaire, mais il n'est pas inacceptable. Sinon, on regarde la politesse. Mais l'insulte, qui parfois confond l'actif et le passif, peut aussi fabriquer incidemment une identité homosexuelle impensée. C'est ce que je proposais. Une source va dans ce sens, que je n'avais pas consultée à l'époque de la rédaction de l'article sur le vizir de Tawhidi, c'est le Muhalla d'Ibn Hazm, l'Andalou, dans son chapitre qui est consacré au Had, c'est-à-dire aux punitions légales. Il distingue soigneusement les fausses accusations de coït hétérosexuel illicite, ce qu'on appelle le qasf, hein, la fausse accusation. Il la distingue du cas de celui qui insulte un homme en lui lançant « yaloti » ou « yamukhannaf ».« Yaloti » correspondrait dans une... je ne veux pas employer de gros mots devant une assemblée... L'assemblée que j'ai devant moi. Donc, Yaloti reviendrait à dire espèce de en trois petits points, mais heure, pas et, heure, attention, partenaire actif, hein, contrairement à l'acception moderne, contemporaine de Loti, Loti en arabe classique, médiéval, implique obligatoirement un partenaire actif. Il ne peut en aucun cas être passif, ce n'est pas du tout le mot qu'on pourrait utiliser. Ou Yamukhannaf, qui veut dire espèce d'efféminée. Alors, déjà, il est particulièrement intéressant que Ibn Hazm groupe les deux insultes dans une même question, dans une même mas'ala. Pourquoi il les groupe ? Parce qu'elles sont à la fois distinctes, mais compatibles dans un même ensemble. D'autre part, quantité de facteurs devraient venir nuancer et détailler l'idée d'une normalité du désir homosexuel éprouvé par l'homme tant qu'il assume un rôle actif et l'idée corollaire d'un impensé de l'homosexualité au sens d'une préférence de genre et non de rôle. Parce qu'il faut prendre en considération l'âge des partenaires, la fréquence des aventures, le critère de l'exclusivité, la présence de l'argent ou d'une dimension marchande de l'échange, le statut indigène ou exogène des partenaires. Tous ces éléments ont leur importance et jouent leur rôle dans la définition d'une norme et donc d'une transgression dans l'élaboration d'un script de comportement. La question de la correspondance entre les représentations élitistes et la réalité des comportements se pose ici avec acuité. Des éléments vont dans le sens de cette normalité sociale, mais il faudra alors préciser l'âge de l'objet du désir. Il est certain que nos désirs sont au moins partiellement culturellement construits. Le topos poétique dans la littérature arabe, persane, ourdou, turque, de l'adolescent imberbe et de sa séduisante ou au contraire défigurante première barbe, contribue à scripter la normalité du désir en présentant l'adolescent mâle comme objet de passion et ou de désir et en fait peut-être, voire probablement, un objet réel du désir masculin dans les cultures où ce topos est reconnu. Après tout, comme le fait plaisamment remarquer l'auteur Khaled Rouaiheb dans son ouvrage « Before Homosexuality », « Avant l'homosexualité », on peut désirer n'y voir qu'une convention poétique, mais il demeure qu'on imagine mal Frank Sinatra ou Elvis Presley, c'est ce que dit Rouaiheb, on pourrait rajouter 50 Cent, chanter la première barbe d'un éphèbe. Elvis Presley n'a fait aucune chanson sur les premières barbes des éphèbes. Les clichés poétiques ne peuvent pas être totalement dissociés du réel. Mais alors, dans quelle mesure ces sociétés regarderaient-elles le désir, fût-il actif, qu'éprouverait un homme adulte pour un autre homme adulte, pour un de ses semblables, et non nécessairement l'adolescent, barbu ou non ? D'autre part, comment se construit la distinction entre l'outil, sujet juridique d'une pénétration illicite, et l'outil, personnage ou sujet littéraire, amateur exclusif, ce qui n'empêche nullement qu'il soit marié et père de famille. Il s'agit là d'une exclusive dans la transgression. Comment se construit cette distinction entre le sujet juridique et le sujet littéraire. La notion de fréquence entre nécessairement en jeu. Il faudra ajouter que de toute façon, l'outil n'est pas un terme de fiqh, n'est pas un terme de juriste. Le juriste dira fa'il fa'al qawm lout. Il ne dira jamais l'outil. L'outil est un terme de littérature. Encore une fois, justement, la justice ne se préoccupe que des actes. Et Dieu est supposé ne se préoccuper que des actes. La littérature, elle, mentionne les préférences. Ce personnage, le personnage de l'outil, est-il effectivement dans la norme de la virilité ? Est-il dans la norme de la masculinité ? Ce sont des questions qui auront en tout état de cause alimenté ma recherche. La théorie des scripts sexuels qui a été élaborée entre les années 70 et 90 par les sociologues John Gagnon et William Simon, appellent à regarder les faits sexuels comme étant des faits sociaux en les banalisant, en niant le présupposé classique d'un état naturel de la sexualité que l'état de culture travaillerait à entraver ou à pervertir, et qui est indubitablement le présupposé dominant de la pensée musulmane classique, qui charge l'autorité, qu'elle soit patriarcale ou qu'elle soit religieuse ou étatique, de protéger l'ordre social des menaces représentées par le déchaînement des passions. La sociologie contemporaine montre que la société n'est pas un principe de coercition, mais de production des conduites sexuelles et des significations qui lui sont liées. non seulement les conduites sexuelles, mais la production même du désir peuvent être considérées comme des comportements scénarisés, scripted behaviors, qui proposent des comportements possibles et normaux. Alors maintenant, si l'on applique ceci à la littérature des sociétés musulmanes classiques, ce qu'elle me semble enseigner et ajouter à la théorie de Gagnon, c'est que les récits produits dans une culture donnée ne scriptent pas seulement les comportements reconnus, qu'ils soient louables ou simplement attendus, mais scénarisent aussi un certain nombre de transgressions à la norme divine. En scénarisent certaines, n'en scénarisent pas d'autres. Manger du jambon n'a jamais été une transcription scriptée dans la production, dans les cultures musulmanes. C'est une transgression qui n'intéresse personne. Mais dans le domaine de la sexualité, il y en a d'autres également qui n'intéressent personne. On peut les rencontrer, elles correspondent peut-être à la réalité des pratiques anciennes, mais elles sont absentes d'une représentation littéraire, elles sont en quelque sorte hors script. Cette notion de script a été mise en application dans le cadre de l'étude des sociétés musulmanes, d'abord par des ottomanistes, Andrews et Kalpakle, qui ont suggéré que la poésie amoureuse ottomane servait de script pour agir et pour interpréter l'amour réel dans la société ottomane du XVIe siècle. Les productions culturelles, les mots et les images ne seraient pas simplement un reflet de pratiques, mais constitutifs de ces pratiques et émotions. Un autre chercheur, chercheur qui se réfère lui aussi aux scripts et aux scénarios comportementaux dans son étude de la sexualité dans l'Orient arabe du XVe au XIXe siècle, introduisait une remarque importante, que le sujet prémoderne dans les sociétés non occidentales se trouve souvent face à des scripts rivaux. Tout comme le citoyen du monde moderne, qui entend des discours sur la sexualité aussi différenciés que ceux du cinéma, ceux du rap, ceux de la littérature, ceux du pape, ceux du milieu dans lequel il évolue, est amené à fabriquer son propre chemin entre ces différents scripts. Et donc, que l'habitant d'Istanbul au XVIe siècle ne peut penser que le désir normal tel que le présente dans le théâtre d'ombre Karagöz, hein, l'obscène héros du théâtre d'ombre ottoman qui abuse sexuellement de ses ennemis de carton, l'habitant d'Istanbul sait parfaitement que ce désir normal qui lui est montré dans le théâtre d'ombre n'est pas le même que le désir normal défini par le prêcheur à la mosquée le vendredi. Cette nécessaire distinction entre les discours concurrents offre une clé supplémentaire pour expliquer la perplexité moderne devant la contradiction entre culture de la jouissance et culture de l'interdit. Et Michel Bozon remarque bien, à partir des travaux de Gagnon sur les rapports entre les navigateurs britanniques et les populations indigènes du Pacifique, que les systèmes de script peuvent se complexifier dans des situations de contact culturel, comme la colonisation ou la migration, par exemple, qui mettent en relation des modes de structuration de la sexualité complètement différents. Fin de citation. Le cas des sociétés arabo-musulmanes contemporaines en donne un exemple parfait. Alors, à partir de ces réflexions extrêmement théoriques, ce que je me propose de faire maintenant, c'est peut-être d'en regarder application avec... J'ai tellement de choses à dire, je pourrais vous parler pendant 5 ou 6 heures, manifestement, vu le nombre de pages que j'ai devant moi, mais ça ne laisserait pas beaucoup de temps. En regardant un ouvrage, concernant les couvents dans le monde arabe médiéval. Dans le monde, oui, c'est ça. Cet ouvrage s'appelle Kitab al-Diyarat, le livre des couvents, et présente en quelque sorte « Sex in Utopia ». C'est l'utopie sexuelle, le monastère chrétien comme espace de débauche. Ce qui pourrait sembler au regard des monastères chrétiens contemporains comme relativement étonnant. Mais encore une fois, nous sommes dans une utopie. Il est certain que toute société corsetée par des normes sociales exigeantes et une loi religieuse plus ou moins strictement appliquée secrète ses propres espaces de transgression, dans la pratique comme dans le discours. En me tournant vers la plaisanterie à partir d'un célèbre ouvrage d'Adab du XIe siècle destiné au plaisir des cénacles et à l'alimentation d'une conversation de lettrés, le livre des couvents, des Shabushti, Kitab Diorot, on pourrait montrer comment un espace physique, le couvent chrétien, espace spécifiquement couplé dans cet ouvrage avec la consommation du vin et des relations physiques entre les visiteurs musulmans et les jeunes moines, se dessine comme un fantasme, une utopie, révélant que le véritable espace de la transgression n'est pas tant le couvent physique que le discours même, qui tourne un lieu de dévotion en sanctuaire de l'interdit. Ce texte est également l'occasion de nuancer, de réinterroger l'idée selon laquelle la culture médiévale arabo-islamique n'a pas besoin de déléguer la responsabilité de la transgression à un autre, comme dans le monde contemporain. Dans le monde contemporain, la transgression appartient à l'autre occidental. On peut la consommer sans en assumer la responsabilité. Dans le monde médiéval, la transgression est produite elle-même par cette littérature. Mais finalement, cette idée que la transgression est secrétée par la littérature du monde arabo-musulman médiéval, elle-même peut être nuancée par le fait que dans un de ses ouvrages, elle est quand même quelque peu affixée à un autre, à un ailleurs qui est en soi, puisque les couvents sont présents dans le Dar al-Islam, mais un ailleurs chez nous, en quelque sorte. On ne peut s'empêcher de remarquer que la faute originelle, consommation d'alcool ou homoérotisme, trouve son origine chez un autre. Cet autre fut-il purement discursif. Ce sont les caravanes venues d'ailleurs qui venaient vendre le vin aux bédouins de la Jahiliya. Ce sont des kriyans, des esclaves chanteuses perses qui plantaient leurs drapeaux et s'offraient à la concupiscence des bédouins. L'amour des garçons serait un vice venu du Khorasan. La fitna qui menace Joseph, après tout, est l'œuvre de l'Égyptienne. Le vin est tiré et vendu par les Juifs et les chrétiens. On peut se demander si, ici comme ailleurs, comme partout, le coupable, le tentateur et l'ultime responsable ne serait pas finalement toujours l'autre. Autre problématique associée à ce corpus d'anecdotes, c'est le rapport entre humour et transgression. Le rire est intimement associé au concept donc de moujoun, dont je parlais précédemment. Clownerie, débauche, absence de honte, impudence. Pour cerner la notion, il faudrait ajouter insolence et affectation de l'indifférence religieuse. La transgression de cette culture, comme ailleurs, est l'une des transgressions du spectacle, du plaisir donné, de l'humour, de l'entertainment, puisque la mention du mépris le plus absolu affiché par un personnage vis-à-vis des bonnes manières à suivre en société et des obligations devant être rendues à Dieu est l'une des manières les plus sûres de faire naître le rire. La nadira, l'anecdote précieuse, est au cœur de cette littérature. C'est un court épisode de quelques lignes à deux pages dans lesquelles un célèbre poète ou un courtisan ou un bouffon agit ou s'exprime de manière outrageante. Mais le sourire ou l'embarras qui se dessine sur le visage du lecteur moderne ne sont assurément pas exactement du même ordre que ceux qui saisissent un lecteur médiéval. Ce livre des couvents, Kitab al-Diyarat, de l'égyptien Shabushti, mort vers 998, est le seul exemplaire conservé de ce genre mineur des livres sur les couvents nés au Xe siècle. Les monastères chrétiens étaient des lieux dans lesquels les califes, apparemment, et autres dignitaires de l'État pouvaient se retirer pour se délasser et par-dessus tout pour des séances de beuverie, puisque les monastères étaient des centres de fabrication du vin. Ceci n'est pas même expliqué dans le Kitab al-Diyarat considéré. L'auteur pensant peut-être comme évident que son lecteur a déjà goûté au plaisir du nectar dans les jardins ombragés d'un monastère surplombant le Tigre, le Frat ou le Nil. Mais en fait, plus qu'une histoire des monastères, c'est un exemple frappant d'une littérature du plaisir composée à la cour fatimide naissante à une date probablement proche de celle de la fondation du Caire. L'hypothèse de départ qui se dégage à la lecture de l'anthologie, c'est que le couvent n'est pas tant un espace de transgression qu'un embrayeur de la transgression dans le discours, quand bien même il fait allusion à la séduction des jeunes moines et des nonnes. En fait, c'est une anthologie faite de fragments de vers, parfois délicats, parfois grossiers, parfois franchement obscènes, d'histoires d'amour émouvantes, de récits historiographiques, de réparties humoristiques et de diverses transgressions de la loi céleste, très lâchement reliées par une évocation en vers d'un monastère. Certaines des anecdotes sont situées dans le monastère même, mais dans la plupart des cas, c'est simplement le nom d'un monastère particulier qui déclenche le souvenir de certains poètes ou visiteurs et d'un type particulier de transgression. Les articles consacrés chacun à un monastère sont de longueur variable, mais suivent un modèle récurrent. Il y a la mention stéréotypée de l'emplacement du monastère, ses jardins, ses visiteurs, chrétiens et musulmans, ces derniers musulmans recherchant des plaisirs terrestres. Mais il apparaît que les musulmans avaient, semblent avoir eu coutume au Xe siècle, de visiter les monastères lors des fêtes chrétiennes, chaque couvent ayant sa fête particulière, et les amateurs conservant un calendrier précis des fêtes à venir, de même que les amateurs de moulettes dans le Caire contemporain savent toujours quel saint va être le prochain à être révéré et où. La plupart des couvents sont introduits par une variation sur la formule وَهُوَ مِنْ مَطَارِحْ أَهْلَ الْبَطَالَةِ وَمَوَاطِنْ ذَوِ الْخَلَاعِ. C'est une destination pour ceux qui recherchent les vains plaisirs et un abri pour les dissolus. Ce qui, en dépit du ton apparemment dépréciatif qu'affecte l'auteur par nécessité, comme une sorte d'obole rendue à la morale, est en fait aussi, évidemment, un jugement éminemment positif. C'est un lieu où il faut aller, où on s'amuse. Ensuite, des vers d'un poète identifié mentionnant le monastère sont alors cités et pavent la voie une série d'anecdotes concernant un poète ou un célèbre personnage historique l'ayant accompagné en ce lieu. Alors, un discret contenu homoérotique apparaît dans la plupart des vers par lesquels s'ouvrent les notices, le plus souvent dans des termes aussi évasifs que la mention d'un fan égale jeune moine, ou d'une pleine lune chrétienne, ou simplement un roulem, un esclave, serviteur, servant du vin au monastère, ou bien les splendides jeunes gens libres, fitiennes, qui accompagnent le poète, bien que le ton homoérotique puisse être plus marqué ou plus orienté vers la thématique transgressive, plus que l'érotisme courtois. La toute première notice s'ouvre par exemple par ces vers « Quelle beauté que celle du Dair d'Urmelis et quelle source de sédition tu es au fan du couvent ?» Fan du couvent, on imagine que c'est un des moines. Si tu habites au monastère ou mon maître, c'est dans mes entrailles que tu habites vraiment. Et « Ma aftanaka » dit le poète au fond du couvent, comme tu es source de fascination et de sédition. Alors, est-ce que c'est un jeune et séduisant moinillon? Est-ce que c'est un échanson? Est-ce que les moines vendaient eux-mêmes le vin aux clients? Impossible de le savoir. Il est inutile de rechercher ces détails pratiques en poésie. Ce ma aftanaka, comme tu es, comme il t'a rendu source de fascination, c'est un double sens. Ça veut dire à la fois comme ta beauté est ensorcelante, d'un côté, et d'autre part, ça veut dire quelle source de sédition tu représentes pour moi, le croyant. La beauté du jeune chrétien pouvant mener à des plaisirs interdits. Le musulman sera alors placé en situation de dépendance affective devant un chrétien, fitna, inversion de l'ordre du monde. Et ce n'est que dans la sexualité que l'ordre naturel de la domination et de la soumission pourra alors se rétablir. Mais rien de ceci ne peut être pris au sérieux. Aucune de ces subversions n'est prise au sérieux. Il s'agit là de clichés littéraires, une combinaison usuelle de thèmes homoérotiques à la position du poète devant l'objet de désirs chrétiens, juifs ou zoroastriens. C'est une combinaison, ce schéma. Tu me domines parce que tu présentes une source de fascination, de beauté pour moi. Donc, je te posséderai pour rétablir l'ordre. Tout ceci n'est pas crédible. Mais c'est un schéma dont on peut supposer qu'il s'est créé et développé avec la génération des dits débauchés de Koufa dans la deuxième moitié du 8e siècle. Et c'est un scénario qui se maintient jusqu'au cœur du 19e, comme en témoigne la littérature des voyageurs musulmans qui découvrent l'Europe impériale. Le jeune Rifat al-Tahtawi, qui n'a jamais eu le moindre intérêt pour les jeunes gens, enfin du moins le moindre intérêt documenté pour les jeunes gens, mais cela ne l'empêche nullement de trouver plaisant et adapté de citer des vers d'un poète du XIIIe siècle pour pimenter sa description du corset des Parisiennes. Il parle du corset des Parisiennes et il dit, vous allez me permettre, je lis une fois en arabe puis je vous le traduis, ومزنر يليتني أستاذه كيما أفوز بضمة من خصره القص يسقيه شبيهة خده والمسلمين مفروض المسلمون والمسلمون بأسرهم في أسره فوحقه لولا رشقة قده ما رق إسلامي لشدة كفره. Donc si je traduis le poème, et on est censé parler du corset des Parisiennes. Il porte la ceinture des gens du livre, Muzannar. Le Zunnar n'est pas, comme en libanais actuel, n'importe quelle ceinture. Zunnar, en contexte médiéval, est la ceinture que portent les juifs, les chrétiens, les zoroastriens. C'est un marqueur confessionnel. Il porte la ceinture des gens du livre et j'aimerais être son professeur afin qu'il me laisse enlacer ses flancs. Le prêtre lui sert un vin de la couleur de ses joues et tous les musulmans deviennent ses captifs. Ma foi n'était sa taille gracile, ma religion ne faiblirait pas devant tant d'infidélité. Il faut remarquer que dans ces vers d'ouverture, donc vous voyez à quel point dans un texte du XIXe siècle, sans aucune connotation homoérotique, on peut mettre des vers homoérotiques de façon quasi innocente, sans même sentir, sans même réaliser, en voulant affecter de croire qu'ils sont finalement neutres. Ce qui ne peut être le cas. Dans les vers d'ouverture des notices, le versant homoérotique de la poésie est plus courant que le versant hétéro-érotique, lorsque l'on parle de ces couvents. La première question qui se pose, c'est pourquoi ? Pourquoi plus facilement une poésie homoérotique qu'une poésie hétéro-érotique ? Un faisceau de réseaux peut l'expliquer. D'abord, le fait que le Xe siècle, le moment de production du Kitab al-Diyarat, est un moment de basculement où les deux versants dans la poésie amoureuse deviennent aussi courants l'un que l'autre, avant la domination nette de l'homoérotisme dans le corpus tardif du XVIe au XVIIIe siècle. Le Xe siècle, c'est le moment où on bascule, hein, où les deux sont à force équivalente. Mais aussi plus directement parce que les couvents de nonnes n'étaient pas aussi communément visités que les couvents masculins, bien que Chabouchti mentionne deux couvents féminins dans son ouvrage, dont un, le couvent des sœurs, où elle avait l'air de bien s'amuser, ce Der el-Khoued, dans lequel se déroule un festival extrêmement inorthodoxe, la nuit du Machouche, pendant lequel hommes et femmes se mêlent sans contrainte, où l'on ne s'interdit de toucher personne et où personne n'est repoussé. Fin de citation. Une festivité si choquante que l'éditeur chrétien du texte, hein, Korki Sawad, s'empresse de démontrer le caractère fictif de cet utopique lieu de mixité sans restreinte, qui signifie par nature la sexualité sans frein, selon la perspective naturaliste musulmane. Le laisser-faire implique la rencontre. Et puis il y a un autre couvent féminin, le couvent des Vierges, dans lequel, selon Al-Jarh, est cité par Chabouchti, un groupe de brigands bédouins trouvèrent refuge après avoir dérobé l'argent des impôts de l'État califal. Bien. Le sous-ensemble semble être Le sous-entendu, excusez-moi. Le sous-entendu semble être que si les moines trouvaient aisément un dérivatif au célibat sous forme de relations intimes, les femmes, elles, ne sauraient se, ouvrez les guillemets, contenter de, fermer les guillemets, relations saphiques, puisque les codes du Mujun qui gouvernent l'ouvrage empêchent d'envisager une quelconque authenticité du vœu de chasteté et que seul le phallus est à même de calmer un désir incontrôlable par cette foi de toute manière erronée qu'est le christianisme. Je vais vous proposer, peut-être pour conclure, une anecdote intéressante, un texte que l'on pourrait... qui est l'anecdote du calife désirable dans cet ouvrage sur les couvents. Je vous lis traduction de l'anecdote du calife désirable. Al-Fadl Ibn al-Abbas Ibn al-Ma'mun mentionne qu'il se rendit un jour à la chasse avec le calife al-Mu'taz. Voici son récit. Nous le détachâmes du cortège, lui, Yunus Ibn Burra et moi-même. Le calife al-Mu'taz se plaignit d'avoir soif. Et je lui dis, ô commandeur des croyants, il y a en ce couvent un moine amical que je connais fort bien et on y trouve de bons instruments de musique. Ferons-nous le détour ? Certes, répondit-il, et nous nous rendîmes lors auprès de l'abbé. Il nous fit excellent accueil, nous apporta de l'eau fraîche et nous proposa de faire halte en son monastère. Vous pourrez vous rafraîchir parmi nous et vous servirons tout ce dont nous disposons ici. Cela vous agrée-t-il ? El-Mu'taz le trouva bien aimable et décida de profiter de cette hospitalité, ce qui fut fait. L'abbé m'interrogea alors sur El-Mu'taz et Yunus ibn Barra. Je répondis qu'il s'agissait de soldats, cachant qu'il s'agissait du calife lui-même. Il me répondit, mais non, c'est l'abbé qui parle, ce sont deux époux des houris échappés du paradis. Mais, exclamait, ce n'est là ni ta croyance ni ta foi. L'abbé répondit, je l'adopte de suite, alors que le calife al-Mu'taz éclatait de rire. L'abbé nous apporta alors du pain et des victuailles à manger avec et tout ce qu'on trouve habituellement dans les couvents. C'était la nourriture la plus saine et la plus goûteuse servie dans les plus beaux récipients. Nous mangeâmes, nous lavâmes les mains et le calife al-Mu'taz se pencha vers moi. Demande-lui en confidence lequel de Yunus ou de moi il aimerait avoir comme compagnon qui jamais ne le quitterait. Je fis comme il m'avait enjoint et l'abbé de répondre, les deux, et une poignée de dattes en plus. El-Mu'taz en rit à s'en renverser. Je dis à l'abbé, mais il faut choisir. Il me répondit que choisir serait une perte immense, quelle raison humaine saurait distinguer l'un de l'autre. C'est alors que le cortège des soldats nous rejoignit et l'abbé fut saisi d'effroi, réalisant qu'il ne pouvait s'agir de simples soldats. Par ma vie, lui dit Al-Mu'taz, continuons notre conversation, car je suis ici sous votre protection et ami de tous ceux qui y résident. Nous demeurâmes en sa compagnie et le calife ordonna qu'on lui fît présent de 50 000 pièces d'argent. Fin du texte. Le prince incognito est une topique commune des récits médiévaux, arabes comme européens. Momentanément dépouillé des symboles du pouvoir, le prince apprend la vérité sur son domaine, il observe le monde sans les interdits qui frappent le discours du sujet devant le détenteur de l'autorité légitime. Le prince est le principal bénéficiaire de ces fictions. Il est le seul personnage dans ces récits stéréotypés à disposer d'une double identité, à pouvoir jouir à la fois du discours de vérité et de celui de l'autorité qu'il sait reprendre à point nommé. Dans cette anecdote, la révélation qui lui est faite est cependant de nature bien étrange. Ce n'est ni un compte-rendu sincère de l'état du royaume, comme cela est le plus courant, ni une vérité philosophique, ni un conseil de bon gouvernement, ni à première vue une réflexion sur l'exercice du pouvoir. La vérité qui est révélée au calife est une vérité sur sa propre valeur érotique. C'est qu'il est désirable pour un abbé. Le Mu'taz historique, qui régna entre 866 et 869, fut, je parle du calife réel, un personnage violent dans une ère violente, où la jouissance du pouvoir était de courte durée. Le calife El-Mu'taz fit assassiner son cousin El-Musta'in, auquel il avait succédé. ainsi que son propre frère El-Mu'ayyad et le général turc Bourassarir. Il est vrai que lorsqu'il mourut à son tour dans les geôles de sa propre garde turque, après 4 années de règne, il n'avait que 24 ans. Ce récit pourrait s'appliquer à d'autres princes, mais s'il choisit d'habiter le personnage d'El-Mu'tazz, c'est sans doute que la conjonction de jeunesse extrême, de destin tragique et de pouvoir immense rend plus extrême sa beauté et sa dangerosité. Il fera tuer le père de celui qui est son compagnon dans ce récit, dont la beauté est égale à la sienne. La réalité historique est que El-Mu'tazz fit tuer le père de son, de son concurrent en matière de charme. La beauté des jeunes hommes fonctionne en ce moment du texte comme une allégorie de leur pouvoir. Si le texte les présente comme d'égale splendeur et rend impossible le choix érotique entre deux, cela signifie peut-être aussi métaphoriquement qu'il est impossible de choisir entre la garde turque et l'autorité califale à ce stade du règne. L'un des deux doit triompher, et ce sera momentanément le légitime calife. Quant à l'abbé, que veut-il ? Les deux jeunes hommes qu'il trouve si séduisants lui sont présentés comme « men abne el jond ». C'est ce que nous dit le texte arabe, que l'on comprendra comme « soit comme soldat, soit comme soldat, fils de soldat ». Contrairement à ce que développent les topoi de la poésie érotique, l'érotique du corps mâle ne s'arrête pas au moment où, ce que l'on dirait en termes « had el rulumeya », le moment où l'adolescent devient homme, devient vir. Manifestement, il appartient à l'érotique du fata, ce n'est pas l'érotique du roulem, de l'adolescent, c'est l'érotique du jeune homme. Ce n'est pas l'érotique de 15 ans, c'est l'érotique de 20 ans. Différence corporelle importante. Le fata, lui aussi, est beau. Et c'est bien même, quand bien même c'est une appréciation plus esthétique qui s'impose à ses admirateurs, et non un désir ouvertement sexuel qui n'a théoriquement plus lieu d'être. D'autant plus que le fata, le jeune homme, est libre, et que tenter de le séduire est prendre un risque au péril de sa propre vie. Il peut défendre très chèrement, par son épée, son honneur. Les débauchés recherchent des rilmen, des adolescents de statut servile pour une satisfaction physique, mais ils saluent aussi le charme des fitiennes, le pluriel de fata, qui sont semblables à des lunes qui les accompagnent et les entourent dans leur séance de beuverie. C'est d'ailleurs une des ambiguïtés des vers et récits de prose bachique que de présenter deux types de beauté mâle, celle légitimement désirable sur le plan physique du roulem et celle du jeune adulte qui demeure théoriquement inaccessible, simple compagnon dont on profite de la beauté et à qui on offre la sienne en partage. L'abbé les décrit comme « muflaten min azwaj al-hur », ce que j'avais traduit comme « échappé parmi les époux des houris ». Alors, est-ce que « azwaj » veut dire « époux » ou « comparable » dans une acception métaphorique ? Je ne sais. Il serait alors peut-être de l'ordre des rilmen du paradis, objet réel de désir. Les époux des houris ne pouvant être que les hommes adultes parvenus au jardin céleste, on comprendra que l'abbé les prend pour des anges. Après tout, on ne demande pas à un abbé de maîtriser complètement la cosmogonie musulmane, comme le lui fait remarquer El-Fadl. Après tout, ce n'est pas ta religion. Oui, mais pour eux, j'adhère momentanément. Mais son emploi d'une référence musulmane n'est pas sans conséquence sur la position de l'abbé. Cela veut dire que le temps du désir qu'il exprime, il devient musulman, et donc devenant musulman, ne serait-ce que discursivement, il devient le mâle adulte dominant. S'il désire les deux jeunes soldats ou deux jeunes faux soldats, c'est bien en tant que partenaire dominant, semble suggérer le texte. Fadl, le courtisan, continue la périlleuse plaisanterie en lui demandant lequel il aimerait garder comme compagnon, comme s'il s'agissait d'esclaves soumis au désir d'un maître. L'inversion de l'ordre du monde est totale. Le calife devient esclave, le fata, jeune homme libre, devient roulem, convoité, le chrétien devient maître du musulman, le désirant devient désiré. Une fois l'identité du calife dévoilée, ce dernier décide de faire durer une partie de la fiction initiale en se déclarant Maoula. Un calife se déclare Maoula, un calife se déclare client sous la protection de l'abbé et du couvent. Calife et Maoula, dominant et dominé en même temps, ne serait-ce que par politesse et reconnaissance. Mais de quoi, au juste, le calife est-il exactement reconnaissant ? Alors, certes, des délicieuses victoires qui lui ont été généreusement présentées à lui et à ses compagnons, mais il paye aussi de 50 000 dirhams une conversation. Il paye 50 000 dirhams une conversation dans laquelle il a été assimilé à un objet virtuel de domination sexuelle. Or, il n'en conçoit aucune colère. Il n'y a donc aucune déchéance de virilité à être désiré, ce n'est que dans la réalisation de ce désir de l'autre qu'il y aurait abdication. On retrouve là les comportements des fils de roi dans les contes des mille et une nuits, l'attitude de Tedj el Moulouk envers le prévôt des marchands qui le désire, à cette différence que cette fois, le calife paye l'inférieur social qui le désire pour ce moment de retour à une condition de simple jeune homme. Je vous remercie.